Il y a quand
Vous
même
déballez tout, donc.
Jonathan Safran-Foer qui est en face de vous, le romancier. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment beaucoup, Jonathan, au sein de la rédaction de France Culture. Il y a d'ailleurs du monde qui vous regarde de par la vitre. Mais à 7h42, avant d'entamer cette discussion avec Jonathan Safran-Foer autour de son dernier livre « Me voici », il y a le son du jour autour du prix Nobel d'économie qui a été attribué à un Américain hier, Robert Thaler, un économiste qui a notamment inspiré Barack Obama en théorisant ce qu'on appelle les incentives, autrement dit les motivations susceptibles de guider le comportement humain pour inciter les gens à adopter un comportement par exemple plus écologique, je reprends l'un de vos thèmes, Jonathan Safran-Foer, ou plus économe, par exemple, dans la perspective de leur retraite. Et en réalité, c'est la 7e fois depuis l'an 2000 qu'un économiste adepte des sciences cognitives est distingué par le Nobel, et la grande révolution en cours en économie, c'est qu'avant, l'homo economicus, c'était un homme qui avait une rationalité sans faille. Voilà, par exemple, quelqu'un qui ressemblait un peu au Spock de Star Trek, comme le disait Robert Thaler.
Commandant Kirk, ces messages vous retraceront ma tentative de contact avec l'intrus. J'ai l'intention de calculer le taux d'accélération de manière à faire coïncider mon arrivée avec l'ouverture de l'orifice de Voyager, afin d'avoir un meilleur aperçu de l'intérieur du vaisseau que je m'apprête à visiter. Spock.
Spock. Spock. Voilà, ça c'était la rationalité d'avant. Et puis il y a la nouvelle rationalité qui a été portée notamment par cet économiste Robert Thaler. Et la nouvelle rationalité, eh bien ça pourrait être par exemple celle d'Homer Simpson.
Je voudrais assurer moi-même notre défense. J'irrite plus qu'alcoolique.
Quelqu'un qui est donc beaucoup plus humain dans sa manière d'envisager la rationalité. Et vous, Jonathan Safran-Foer, lorsque vous dépeignez des personnages, est-ce que le fait est de prévoir, d'envisager des individus rationnels dans vos romans, c'est quelque chose qui vous parle ?
Well, first of all, that's not what Homer Simpson sounds like at all.
Oui, c'est la première fois que vous l'entendez en traduction, évidemment.
Oui, tout à fait.
Obviously, it can be useful to make broad generalizations about
de faire des généralisations sur la rationalité humaine.
Also, obviously, win you a Nobel Prize.
Et vous pouvez obtenir un prix Nobel en faisant cela. Mais je pense que les romanciers ne doivent s'abstenir de faire des généralisations et regarder à des individus bien précis, des situations bien précises. Lorsque j'ai écrit sur Jacob, ce personnage, je n'ai pas essayé de faire des affirmations sur ce que les gens sont, sur ce que les Américains sont, sur ce que les Juifs sont, sur ce que les gens de la classe moyenne au XXIe siècle sont, mais j'ai voulu parler de cette personne. Et la magie des livres, lorsqu'ils fonctionnent, c'est que plus on est spécifique, plus on entre dans les détails, plus universel on est. Jacob est parfois très rationnel. Parfois, il est complètement irrationnel. Il va à l'encontre de son propre bonheur par ses actions. Il agit à l'encontre de ses intérêts. Chose que les économistes détestent, parce que ça n'entre pas dans le cadre de leur théorie.
Je vais essayer de présenter la vie de Jacob et Julia, qui sont donc au cœur de votre dernier roman, Jonathan Safran-Foer. Me voici. Jacob et Julia, c'est un couple en train de se défaire au bout de 16 ans de mariage. C'est un processus qui est déjà bien avancé quand commence le livre. On sent de plus en plus de désintérêt dans ce couple. Et puis ce processus de délitement du couple, il va prendre un tournant décisif quand Julia découvre des sextos que son mari échange avec une collègue de travail. Alors il dit qu'il n'y a pas de passage à l'acte, bien entendu, là-dessus chaque lecteur aura la possibilité de se faire son idée. Et puis de toute façon, c'est une situation qui est assez équilibrée dans le couple, puisque Julia trompe également son mari, et elle trompe son mari évidemment avec un ami du couple. Tout cela est finalement assez représentatif d'une trajectoire de couple, d'un divorce et d'une forme de difficulté à faire vivre l'amour après donc 16 ans, comme je l'ai dit. Pourquoi avoir eu envie de raconter l'histoire de ce couple, Jonathan Safran-Foer ?
Well, I find it so funny how when people describe
ce qui m'intéresse, c'est quand les gens décrivent, me décrivent le livre, ce qu'ils décrivent, ils se décrivent, et leur lecture du livre. Et une autre personne va décrire le livre d'une manière complètement différente. L'autre jour, à Paris, je faisais une interview, le journaliste m'a dit, j'ai beaucoup aimé cette scène où Julia parle de comment elle n'aime pas enlever son soutien-gorge devant son mari parce qu'elle a peur que sa poitrine tombe. Et cette scène n'est pas dans le livre.
Si, vous racontez dis, que dans vous le livre qu'elle dort avec son soutien-gorge. Qu'elle dort dans avec son soutien-gorge pour avoir chaud.
Elle dort avec son soutien-gorge.
Mais il a extrapolé. Ce qui est un comportement irrationnel, sauf à avoir une explication.
Irrational for her.
Irrationnel pour elle. Il faudrait lui en parler à elle.
C'est
probablement la raison pour laquelle je l'ai écrit. J'avais 15 ans dans un cours d'écriture et j'ai écrit à propos d'une fille qui dormait avec son soutien-gorge. Et le professeur m'a mis dans une position embarrassante devant mes pairs et a dit, vous vous rendez compte que les femmes ne dorment pas avec leur soutien-gorge? Et bien sûr, non, je n'étais pas conscient de cela. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de manières de décrire ce livre. J'aime votre description de mon livre. Il s'agit de deux personnes qui sont intelligentes, de personnes intelligentes, sensibles, qui s'aiment, qui se connaissent depuis longtemps et qui réalisent tout d'un coup qu'ils sont séparés, qu'ils sont de part et d'autre d'un canyon. Petit à petit, ils se sont éloignés l'un de l'autre et d'eux-mêmes.
Moi, j'ai une explication, alors je vais peut-être me dévoiler, mais si une femme dort avec un soutien-gorge quand elle est avec son compagnon, son amant, c'est peut-être qu'elle n'a plus très envie de lui, par exemple.
Well, listen, it might be a mistake for you and I to
speculate pour vous et moi de spéculer sur pourquoi elle dort avec son soutien-gorge. Et peut-être que pour elle, c'était plus confortable physiquement. Je ne dors pas avec mes lunettes. Il y a un inconfort physique entre Julia et Jacob, malgré le fait qu'ils puissent parler de leurs enfants, des selles de leurs enfants, ou de comment leur corps change alors qu'ils vieillissent. Ils pensent qu'ils peuvent parler de tout, mais il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas partager. Par exemple, la version de Jacob quant au soutien-gorge, c'est qu'il a des hémorroïdes. Et il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler avec sa femme. Et donc il y a un rituel secret. Chaque nuit, il va à la salle de bain, il fait semblant de faire pipi. Il fait ce qu'il doit faire pour ses hémorroïdes. Il revient comme si rien ne s'était passé. Et il fait cela chaque nuit. Malgré le fait qu'il connaisse sa femme mieux que n'importe qui d'autre. Un des éléments très tristes de leur relation et de leur vie en tant qu'individus, c'est leur incapacité à être complètement honnête.
Mais c'est un roman à la fois drôle et grave. Ce qu'il y a d'un peu désespérant dans ce livre, Jonathan Safran Foer, pour ceux en tout cas qui voudraient que l'amour dure plus de 16 ans, c'est l'idée selon laquelle, au bout d'un certain temps, alors même que tout réussit à ce couple, puisque vous évoquez la classe moyenne américaine, c'est effectivement la classe moyenne américaine supérieure, ces deux personnages vivent à Washington, ils ont trois enfants qui vont bien, même si chaque enfant pose des problèmes. Ils vont chez Whole Foods, autrement dit, ils font leurs courses chez un épicier huppé qui propose des produits bio. Ils sont donc plutôt dans des carrières où ils ont réussi. Et pour autant, eh bien, ils ne parviennent pas à continuer à s'aimer. On ne comprend pas d'ailleurs très bien pourquoi ils cessent de s'aimer. On a des hypothèses. On voit par exemple que le désir n'est pas complètement absent chez eux de l'un vis-à-vis de l'autre, mais qu'il y a quelque chose du ressort de la communication qui ne passe plus entre eux. Pourquoi ?
Well, Well, you know, they get closer and closer and closer on
Ils se rapprochent, which is that kind of domestic bourgeois level that you're talking about. C'est cette vie dont vous parliez, bourgeoise.
Discussing what to put in the refrigerator, what to feed the kids.
Ils parlent des courses, des repas pour les enfants, comment se coordonner pour le covoiturage, les leçons de violon, des entraînements de foot, de violoncelle. C'est comme s'ils étaient PDG d'une entreprise, c'est une famille. Mais sur un autre plan, sur le plan de l'intimité, lorsqu'ils étaient jeunes, quand on est jeune, quand la plupart des gens sont jeunes, on ne se rappelle pas comment a commencé le sexe, la sexualité, on fait juste l'amour. Et plus ils grandissent ensemble, ils vieillissent, il leur faut une explication, une raison pour avoir des rapports. Une de mes blagues les plus drôles dans le livre, elle marche pas aux États-Unis. Pour faire l'amour, il leur faut une forme d'inspiration, un élan. Ou comme par exemple voir ce film, La vie d'Adèle, ça les stimule. Pourquoi cela se produit?
Ça
concerne beaucoup de gens. Beaucoup.
Mais alors, si je parlais de livres un peu désespérants de Jonathan Safran Foer, c'est parce qu'à un moment, l'un de vos personnages dit que finalement, le mariage lui a fait perdre son monologue intérieur. Et c'est ça qui est terrible, parce que d'un côté, on a des individus qui ne parviennent plus à communiquer, mais le peu de communication qu'ils ont contribue à leur faire perdre leur intériorité. Alors, du coup, quelle peut être la solution? Changer de partenaire tous les 16 ans avant, ça veut dire que finalement le mariage a une date limite de consommation?
You had described their marriage as a failure.
Vous décrivez leur mariage comme un échec.
You know, we want to last more than 16 years. 16 years is not so bad.
Qu'un amour dure plus de 16 ans. 16 ans, c'est pas mal déjà. Ils ont 3 enfants.
Friends,
et ils sont amis.
Julia dit à un moment,
peut-être qu'on n'a pas échoué, on a juste réussi jusqu'à ce qu'on cesse de réussir. Mais pour durer, il faut savoir se réinventer. C'est comme pour toute chose, ils n'ont pas su se réinventer.
Et
ils ont laissé l'échec être une possibilité. George Harrison, on lui a demandé comment ça se fait qu'ils soient restés mariés 50 ans. On est resté 50 ans parce que en ne divorçant pas. C'est un peu une blague, mais c'est la vérité. Certaines personnes
ne laissent pas que ce soit une option.
Pour eux, l'échec n'est pas une possibilité.
D'autres
ne l'excluent pas. Si vous envisagez l'échec de votre couple, à ce moment-là, ça devient une possibilité.
Oui, mais là aussi, l'échec est relatif. Et pour l'un des personnages de votre roman, c'est un personnage de parti pris, puisque c'est l'amant de Julia. Donc, il a tout intérêt à lui faire comprendre qu'elle ferait bien de divorcer. Et cet amant lui dit, tu sais pourquoi un divorce coûte cher? Parce que ça vaut le coup. Et finalement, il y a donc, dans cette manière de voir le divorce, une forme de vie assez libératoire, la possibilité de sortir du couple et de sortir d'un carcan. C'est ça qui caractérise vos personnages, Jonathan Safran Foer.
C'est une manière de voir les choses. Il est plus facile d'arrêter que de continuer.
Pour
toute activité, qui exige quelque chose de vous. Être marié au fil du temps, ça exige beaucoup de choses de vous. Avoir un nouveau partenaire, c'est une sensation très agréable. Quand on travaille à côté de la même personne, 16 ans après le mariage, c'est pas forcément un sentiment agréable.
And this is a question the characters in the book are addressing: is what do you want in the moment,
and what do you want
when you pull the camera back,
and qu'est-ce que vous voulez quand vous prenez du recul, et quand vous regardez votre vie dans votre ensemble, est-ce que vous cherchez la satisfaction dans l'instant présent, ou est-ce que vous voulez construire à plus long terme?
La manière dont vous avez écrit ce livre est assez inventive sur le plan formel. C'est un collage. Vous utilisez différents types de discours qui vont donc du sexto, puisque les sextos jouent un rôle décisif dans l'histoire de ce couple, jusqu'au dialogue sur Internet, avec différents niveaux de langue qui se bousculent. Pourquoi ce choix?
I guess as I wrote it, it didn't really feel like I was making a choice.
J'ai écrit, j'ai pas vraiment eu l'impression que je faisais des choix.
Writing the book as it
j'écrivais le livre comme je voulais qu'il soit.
You know, we live in a world that has
on vit dans
so
un monde où il y a tellement de formes différentes de médias. Dans cette salle, il y a 10 micros, il y a un journal. Il y a des caméras numériques, il y a une horloge, il y a une télé. On écoute des extraits de Simpsons et de Star Trek. C'est un collage. Lorsque j'écris, j'essaie de refléter mon expérience. J'écris des romans contemporains et non des romans historiques, et je veux que mes romans soient proches de mes expériences. Et si vous passez 3, 4 ou 10 ans dans un projet créatif, cela doit refléter pleinement votre expérience, mon expérience.
Involves a lot of different forms of media and tones and voices.
Différents types de médias, de tons, de voix.
Et votre roman raconte aussi une évolution, comme ça fait 16 ans que Julia et Jacob sont ensemble. Au début, quand ils se sont rencontrés, ils s'écrivaient des lettres, puis ils se sont écrits des textos, puis l'un des deux a commencé à écrire des sextos à quelqu'un d'autre.
Yeah, I mean, I guess one could wonder to what extent the mediums of communication,
dans quelle mesure les moyens de communication ont une influence sur la nature même de la communication entre les individus. Jacob est quelqu'un peut-être comme moi, peut-être comme vous également, trouve un certain confort en cachant, en se cachant. C'est plus difficile, c'est plus facile d'être courageux quand on envoie un texto à quelqu'un que quand on a une conversation en tête-à-tête. C'est plus facile d'avoir une relation à distance qu'une relation très intime.
Jacob, you know, in the beginning of this conversation, I was talking about how Jacob isn't a representative of masculinity.
Jacob n'est pas représentatif de la masculinité. Mais peut-être d'un problème masculin contemporain où on se cache.
On vous retrouve dans une vingtaine de minutes, Jonathan Safran-Foer. Votre roman Me Voici vient d'être publié aux éditions de l'Olivier. Il est traduit par Stéphane Rock et sur ce plateau, vous êtes traduit par Soel Gain. On vous retrouve tous les deux donc aux environs de 8h20. Il est 8h sur France Culture.